Soudain, il la vit, douta, prit sa jumelle, la reconnut et, bouleversé par une émotion violente, s'assit pour l'attendre. Quand elle entra, il se précipita sur les genoux et voulut lui prendre les mains, mais elle les retira brusquement. Et comme il demeurait à ses pieds, saisi d'angoisse et les yeux levés vers elle, elle lui dit avec hauteur « Que faites-vous donc, monsieur? Je ne comprends pas cette attitude. » Il balbutia « Oh, madame, je vous en supplie. » Elle l'interrompit durement « Relevez-vous, vous êtes ridicule. » Il se releva, effaré, murmurant « Qu'avez-vous? Ne me traitez pas ainsi, je vous aime. » Alors, en quelques mots rapides et secs, elle lui signifia sa volonté et régla la situation. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ne me parlez jamais de votre amour, ou je quitterai cet atelier pour n'y point revenir. Si vous oubliez, une seule fois, cette condition de ma présence ici, vous ne me reverrez plus. » Il la regardait, affolé par cette dureté qu'il n'avait point prévue. Puis il comprit et murmura « J'obéirai, madame. » Elle répondit « Très bien, j'attendais cela de vous. Maintenant, travaillez, car vous êtes long à finir ce portrait. » Il prit donc sa palette et se mit à peindre. Mais sa main tremblait, ses yeux troublés regardaient sans voir. Il avait envie de pleurer, tant il se sentait le cœur meurtri. Il essaya de lui parler, elle répondit à peine. Comme il tentait de lui dire une galanterie sur son teint, elle l'arrêta d'un ton si cassant qu'il eut tout à coup une de ces fureurs d'amoureux qui changent en haine la tendresse. Ce fut, dans son âme et dans son corps, une grande secousse nerveuse, et tout de suite, sans transition, il la détesta. Oui, oui, c'était bien cela, la femme. Elle était pareille aux autres, elle aussi, pourquoi pas? Elle était fausse, changeante et faible comme toutes. Elle l'avait attiré, séduit par des ruses de fille, cherchant à l'affoler, sans rien donner ensuite, le provoquant pour se refuser, employant pour lui toutes les manœuvres des lâches coquettes qui semblent toujours prêtes à se dévêtir, tant que l'homme qu'elle rende pareil au chien des rues n'est pas haletant de désir. Tant pis pour elle, après tout. Il l'avait eue, il l'avait prise. Elle pouvait éponger son corps et lui répondre insolemment. Elle n'effacerait rien. Et il l'oublierait, lui. Vraiment, il aurait fait une belle folie en s'embarrassant d'une maîtresse pareille, qui aurait mangé sa vie d'artiste avec des dents capricieuses de jolie femme. Il avait envie de siffler, ainsi qu'il faisait devant ses modèles. Mais comme il sentait son énervement grandir et qu'il redoutait de faire quelques sottises, il abrégea la séance sous prétexte d'un rendez-vous. Quand ils se saluèrent en se séparant, ils se croyaient assurément plus loin l'un de l'autre que le jour où ils s'étaient rencontrés chez la duchesse de Mortemain. Dès qu'elle fut partie, il prit son chapeau et son pardessus et il sortit. Un soleil froid, dans un ciel bleu ouaté de brume, jetait sur la ville une lumière pâle, un peu fausse et triste. Lorsqu'il eut marché quelque temps, d'un pas rapide et irrité, en heurtant les passants, pour ne point dévier de la ligne droite, sa grande fureur contre elle s'émietta en désolation et en regret. Après qu'il se fut répété tous les reproches qu'il lui faisait, il se souvint, en voyant passer d'autres femmes, combien elle était jolie et séduisante. Comme tant d'autres qui ne l'avouent point, il avait toujours attendu l'impossible rencontre, l'affection rare, unique, poétique et passionnée, dont le rêve plane sur nos cœurs. N'avait-il pas failli trouver cela? N'était-ce pas elle qui lui aurait donné ce presque impossible bonheur? Pourquoi donc est-ce que rien ne se réalise? Pourquoi ne peut-on rien saisir de ce qu'on poursuit, ou n'en atteint-on que des parcelles qui rendent plus douloureuse cette chasse aux déceptions? Il n'en voulait plus à la jeune femme, mais à la vie elle-même. Maintenant qu'il raisonnait, pourquoi lui en aurait-il voulu à elle? Que pouvait-il lui reprocher, après tout, d'avoir été aimable, bonne et gracieuse pour lui? certains desquels pouvaient lui reprocher, elle, de s'être conduit comme un malfaiteur. Il rentra plein de tristesse. Il aurait voulu lui demander pardon, se dévouer pour elle, faire oublier. Et il chercha ce qu'il pourrait tenter pour qu'elle comprît combien il serait, jusqu'à la mort, docile désormais à toutes ses volontés. Or, le lendemain, elle arriva accompagnée de sa fille, avec un sourire si morne, avec un air si chagrin, que le peintre crut voir dans ses pauvres yeux bleus, jusque-là si gais, toute la peine, tout le remords, toute la désolation de ce cœur de femme. Il fut remué de pitié, et pour qu'elle oubliât, il eut pour elle, avec une délicate réserve, les plus fines prévenances. Elle y répondit avec douceur, avec bonté, avec l'attitude lasse et brisée d'une femme qui souffre. Et lui, en la regardant, repris d'une folle idée de l'aimer et d'être aimé, il se demandait comment elle n'était pas plus fâchée, comment elle pouvait revenir encore, l'écouter et lui répondre, avec ce souvenir entre eux. Du moment qu'elle pouvait le revoir, entendre sa voix et supporter en face de lui la pensée unique qui ne devait pas la quitter, c'est qu'alors cette pensée ne lui était pas devenue odieusement intolérable. Quand une femme hait l'homme qui l'a violée, elle ne peut plus se trouver devant lui sans que cette haine éclate. Mais cet homme ne peut non plus lui demeurer indifférent. Il faut qu'elle le déteste ou qu'elle lui pardonne. Et quand elle pardonne cela, elle n'est pas loin d'aimer. Tout en peignant avec lenteur, il raisonnait par petits arguments précis, clairs et sûrs. Il se sentait lucide, fort, maître à présent des événements. Il n'avait qu'à être prudent, qu'à être patient, qu'à être dévoué, et il la reprendrait, un jour ou l'autre. Il sut attendre. Pour la rassurer et la reconquérir, il eut des ruses à son tour, des tendresses dissimulées sous d'apparents remords, des attentions hésitantes et des attitudes indifférentes. Tranquille dans la certitude du bonheur prochain que lui importait un peu plus tôt, un peu plus tard. Il éprouvait même un plaisir bizarre et raffiné à ne se point presser, à la guetter, à se dire « Elle a peur !» en la voyant venir toujours avec son enfant. Il sentait qu'entre eux se faisait un lent travail de rapprochement et que dans les regards de la comtesse, quelque chose d'étrange, de contraint, de douloureusement doux apparaissait. Cet appel d'une âme qui lutte, d'une volonté qui défaille et qui semble dire « Mais force-moi donc !» Au bout de quelque temps, elle revint seule, rassurée par sa réserve. Alors il la traita en amie, en camarade, lui parla de sa vie, de ses projets, de son art, comme à un frère. Séduite par cet abandon, elle prit avec joie ce rôle de conseillère, flattée qu'il la distinguait ainsi des autres femmes et convaincue que son talent gagnerait de la délicatesse à cette intimité intellectuelle. Mais à force de la consulter et de lui montrer de la déférence, il la fit passer, naturellement, des fonctions de conseillère au sacerdoce d'inspiratrice. Elle trouva charmant d'étendre ainsi son influence sur le grand homme et consentit à peu près à ce qu'il l'aimât en artiste, puisqu'elle inspirait ses œuvres. Ce fut un soir, après une longue causerie sur les maîtresses des peintres illustres, qu'elle se laissa glisser dans ses bras. Elle y resta, cette fois, sans essayer de fuir, et lui rendit ses baisers. Alors, elle n'eut plus de remords, mais le vague sentiment d'une déchéance, et pour répondre aux reproches de sa raison, elle crut à une fatalité. Entraînée vers lui par son cœur qui était vierge et par son âme qui était vide, la chair conquise par la lente domination des caresses, Elle s'attacha peu à peu, comme s'attachent les femmes tendres qui aiment pour la première fois. Chez lui, ce fut une crise d'amour aiguë, sensuelle et poétique. Il lui semblait parfois qu'il s'était envolé, un jour, les mains tendues, et qu'il avait pu étreindre à pleins bras le rêve ailé et magnifique qui plane toujours sur nos espérances. Il avait fini le portrait de la comtesse, le meilleur, certes, qu'il eût peint, car il avait su voir et fixer ce je ne sais quoi d'inexprimable que presque jamais un peintre ne dévoile, ce reflet, ce mystère, cette physionomie de l'âme qui passe, insaisissable, sur les visages. Puis des mois s'écoulèrent, et puis des années, qui desserrèrent à peine le lien qui unissait l'un à l'autre la comtesse de Guilleroy et le peintre Olivier Bertin. Ce n'était plus chez lui l'exaltation des premiers temps, mais une affection calmée, profonde, une sorte d'amitié amoureuse dont il avait pris l'habitude. Chez elle, au contraire, grandit sans cesse l'attachement passionné, l'attachement obstiné de certaines femmes qui se donnent à un homme pour tout à fait et pour toujours, honnêtes et droites dans l'adultère, comme elles auraient pu l'être dans le mariage, elles se vouent à une tendresse unique dont rien ne les détournera. Non seulement elles aiment leur amant, mais elles veulent l'aimer, et les yeux uniquement sur lui, elles occupent tellement leur cœur de sa pensée que rien d'étranger n'y peut plus entrer. Elles ont lié leur vie avec résolution, comme on se lie les mains, avant de sauter à l'eau du haut d'un pont lorsqu'on sait nager et qu'on veut mourir. Mais à partir du moment où la comtesse se fut donnée ainsi, elle se sentit assaillie de crainte sur la constance d'Olivier Bertin. Rien ne le tenait que sa volonté d'homme, son caprice, son goût passager pour une femme rencontrée un jour, comme il en avait déjà rencontré tant d'autres. Elle le sentait si libre et si facile à tenter, lui qui vivait sans devoir, sans habitude et sans scrupules, comme tous les hommes. Il était beau garçon, célèbre, recherché, ayant à la portée de ses désirs, vite éveillé, toutes les femmes du monde dont la pudeur est si fragile. Et toutes les femmes d'alcôve ou de théâtre prodiguent de leur faveur avec des gens comme lui. Une d'elles, un soir, après souper, pouvait le suivre et lui plaire, le prendre et le garder. Elle vécut donc dans la terreur de le perdre, épiant ses allures, ses attitudes, bouleversée par un mot, pleine d'angoisse dès qu'il admirait une autre femme, vantait le charme d'un visage ou la grâce d'une tournure. Tout ce qu'elle ignorait de sa vie la faisait trembler, et tout ce qu'elle en savait l'épouvantait. À chacune de leurs rencontres, elle devenait ingénieuse à l'interroger, sans qu'il s'en aperçût, pour lui faire dire ses opinions sur les gens qu'il avait vus, sur les maisons où il avait dîné, sur les impressions les plus légères de son esprit. Dès qu'elle croyait deviner l'influence possible de quelqu'un, elle la combattait avec une prodigieuse astuce, avec d'innombrables ressources. Oh, souvent elle pressentit ces courtes intrigues, sans racines profondes qui durent 8 à 15 jours, de temps en temps, dans l'existence de tout artiste en vue. Elle avait, pour ainsi dire, l'intuition du danger, avant même d'être prévenue de l'éveil d'un désir nouveau chez Olivier. Par l'air de fête que prennent les yeux et le visage d'un homme que surexcite une fantaisie galante. Alors, elle commençait à souffrir. Elle ne dormait plus que des sommeils troublés par les tortures du doute. Pour le surprendre, elle arrivait chez lui sans l'avoir prévenu, lui jetait des questions qui semblaient naïves, tâtait son cœur, écoutait sa pensée, comme on tâte, comme on écoute, pour connaître le mal caché dans un être. Et elle pleurait sitôt qu'elle était seule, sûre qu'on allait le lui prendre cette fois, lui voler cet amour à qui elle tenait si fort, parce qu'elle y avait mis, avec toute sa volonté, toute sa force d'affection, toutes ses espérances et tous ses rêves. Aussi, quand elle le sentait revenir à elle, après ses rapides éloignements, elle éprouvait à le reprendre, à le reposséder comme une chose perdue et retrouvée, un bonheur muet et profond, qui parfois, quand elle passait devant une église, la jetait dedans pour remercier Dieu. La préoccupation de lui plaire toujours, plus qu'aucune autre, et de le garder contre toutes, avait fait de sa vie entière un combat ininterrompu de coquetterie. Elle avait lutté pour lui, devant lui, sans cesse, par la grâce, par la beauté, par l'élégance. Elle voulait que partout où il entendrait parler d'elle, on vantât son charme, son goût, son esprit et ses toilettes. Elle voulait plaire aux autres pour lui et les séduire afin qu'il fût fier et jaloux d'elle. Et chaque fois qu'elle le devina jaloux, après l'avoir fait un peu souffrir, elle lui ménageait un triomphe qui ravivait son amour en excitant sa vanité. Puis, comprenant qu'un homme pouvait toujours rencontrer, par le monde, une femme dont la séduction physique serait plus puissante, étant nouvelle, elle eut recours à d'autres moyens, elle le flatta et le gâta. D'une façon discrète et continue, elle fit couler l'éloge sur lui. Elle le berça d'admiration et l'enveloppa de compliments, afin que, partout ailleurs, il trouvât l'amitié et même la tendresse un peu froides et incomplètes, afin que si d'autres l'aimaient aussi, il finit par s'apercevoir qu'aucune ne le comprenait comme elle. Elle fit de sa maison, de ses deux salons où il entrait si souvent, un endroit où son orgueil d'artiste était attiré autant que son cœur d'homme, l'endroit de Paris où il aimait le mieux venir, parce que toutes ses convoitises y étaient en même temps satisfaites. Non seulement elle apprit à découvrir tous ses goûts, afin de lui donner, en les rassasiant chez elle, une impression de bien-être que rien ne remplacerait, mais elle sut en faire naître de nouveau, lui créer des gourmandises de toutes sortes, matérielles ou sentimentales, des habitudes de petits soins, d'affection, d'adoration, de flatterie. Elle s'efforça de séduire ses yeux par des élégances, son odorat par des parfums, son oreille par des compliments et sa bouche par des nourritures. Mais lorsqu'elle eut mis en son âme et en sa chair de célibataire égoïste et fêté une multitude de petits besoins tyranniques, lorsqu'elle fut bien certaine qu'aucune maîtresse n'aurait comme elle le souci de les surveiller et de les entretenir pour le ligoter par toutes les menues jouissances de la vie, elle eut peur tout à coup, en le voyant se dégoûter de sa propre maison, se plaindre sans cesse de vivre seule, et ne pouvant venir chez elle qu'avec toutes les réserves imposées par la société, chercher au cercle, chercher partout les moyens d'adoucir son isolement. Elle eut peur qu'il ne songeât au mariage. En certains jours, elle souffrait tellement de toutes ses inquiétudes qu'elle désirait la vieillesse pour en avoir fini avec cette angoisse-là et se reposer dans une affection refroidie et calme. Les années passèrent, cependant, sans les désunir. La chaîne attachée par elle était solide et elle en refaisait les anneaux à mesure qu'ils s'usaient. Mais toujours soucieuse, elle surveillait le cœur du peintre comme on surveille un enfant qui traverse une rue pleine de voitures. Et chaque jour encore, elle redoutait l'événement inconnu dont la menace est suspendue sur nous. Le comte, sans soupçon et sans jalousie, trouvait naturelle cette intimité de sa femme et d'un artiste fameux qui était reçu partout avec de grands égards. À force de se voir, les deux hommes, habitués l'un à l'autre, avaient fini par s'aimer. Chapitre 2. Quand Bertin entra le vendredi soir chez son ami, où il devait dîner pour fêter le retour d'Annette de Guilleroy, il ne trouva encore, dans le petit salon Louis XV, que M. de Musadieu qui venait d'arriver. C'était un vieil homme d'esprit qui aurait pu devenir peut-être un homme de valeur et qui ne se consolait point de ce qu'il n'avait pas été. Ancien conservateur des musées impériaux, il avait trouvé moyen de se faire renommer inspecteur des beaux-arts sous la République, ce qui ne l'empêchait pas d'être, avant tout, l'ami des princes, de tous les princes, des princesses et des duchesses de l'aristocratie européenne, et le protecteur juré des artistes de toutes sortes. Doué d'une intelligence alerte, capable de tout entrevoir, d'une grande facilité de parole qui lui permettait de dire avec agrément les choses les plus ordinaires, d'une souplesse de pensée qui le mettait à l'aise dans tous les milieux, et d'un flair subtil de diplomate qui lui faisait juger les hommes à première vue. Il promenait de salon en salon, le long des jours et des soirs, son activité éclairée, inutile et bavarde. Apte à tout faire, semblait-il, il parlait de tout avec un semblant de compétence, attachant et une clarté de vulgarisateur qui le faisait fort apprécier des femmes du monde, à qui il rendait les services d'un bazar roulant d'érudition. Il savait, en effet, beaucoup de choses, sans avoir jamais lu que les livres indispensables. Mais il était au mieux avec les 5 académies, avec tous les savants, tous les écrivains, tous les érudits spécialistes, qu'il écoutait avec discernement. Il savait oublier aussitôt les explications trop techniques ou inutiles à ses relations, retenait fort bien les autres et prêtait à ses connaissances ainsi glanées un tour aisé, clair et bon enfant, qui les rendait faciles à comprendre comme des fabliaux scientifiques. Il donnait l'impression d'un entrepôt d'idées, d'un de ces vastes magasins où on ne rencontre jamais les objets rares, mais où tous les autres sont à foison, à bon marché, de toute nature, de toute origine, depuis les ustensiles de ménage jusqu'aux vulgaires instruments de physique amusante ou de chirurgie domestique. Les peintres, avec qui ses fonctions le laissaient en rapport constant, le blaguaient et le redoutaient. Il leur rendait, d'ailleurs, des services, leur faisait vendre des tableaux, les mettait en relation avec le monde, aimait les présenter, les protéger, les lancer, semblait se vouer à une œuvre mystérieuse de fusion entre les mondains et les artistes, se faisait gloire de connaître intimement ceci et d'entrer familièrement chez cela, de déjeuner avec le prince de Galles, de passage à Paris, et de dîner le soir même avec Paul Adelman, Olivier Bertin et Amaury Maldan. Bertin, qu'il aimait assez, le trouvant drôle, disait de lui « C'est l'encyclopédie de Jules Verne, reliée en peau d'âne ». Les deux hommes se serrèrent la main et se mirent à parler de la situation politique, des bruits de guerre que Musadieu jugeait alarmantes, pour des raisons évidentes qu'il exposait fort bien, l'Allemagne ayant tout intérêt à nous écraser et à hâter ce moment attendu depuis 18 ans par Monsieur de Bismarck. Tandis qu'Olivier Bertin prouvait, par des arguments irréfutables, que ses craintes étaient chimériques, l'Allemagne ne pouvant être assez folle pour compromettre sa conquête dans une aventure toujours douteuse, et le chancelier assez imprudent pour risquer au dernier jour de sa vie son œuvre et sa gloire d'un seul coup. Monsieur de Musadieu, cependant, semblait savoir des choses qu'il ne voulait pas dire. Il avait vu d'ailleurs un ministre dans la journée et rencontré le grand-duc Vladimir, revenu de Cannes la veille au soir. L'artiste résistait, et avec une ironie tranquille, contestait la compétence des gens les mieux informés. Derrière toutes ces rumeurs, on préparait des mouvements de bourse. Seul M. de Bismarck devait avoir là-dessus une opinion arrêtée, peut-être. M. de Guilleroy entra, serra les mains avec empressement, en s'excusant par phrases onctueuses de les avoir laissés seuls. « Et vous, mon cher député ? » demanda le peintre. « Que pensez-vous des bruits de guerre ?» Monsieur de Guilleroy se lança dans un discours. Il en savait plus que personne comme membre de la Chambre, et cependant il n'était pas du même avis que la plupart de ses collègues. Non, il ne croyait pas à la probabilité d'un conflit prochain, à moins qu'il ne fût provoqué par la turbulence française et par les rodomontades des soi-disant patriotes de la Ligue. Et il fit de M. de Bismarck un portrait à grands traits, un portrait à la Saint-Simon. Cet homme-là, on ne voulait pas le comprendre, parce qu'on prête toujours aux autres sa propre manière de penser, et qu'on les croit prêts à faire ce qu'on aurait fait à leur place. M. de Bismarck n'était pas un diplomate faux et menteur, mais un franc, un brutal, qui criait toujours la vérité, annonçait toujours ses intentions. « Je veux la paix, » dit-il. C'était vrai, il voulait la paix, rien que la paix, et tout le prouvait d'une façon aveuglante depuis 18 ans. Tout, jusqu'à ses armements, jusqu'à ses alliances, jusqu'à ce faisceau de peuples unis contre notre impétuosité. Monsieur de Guilleroy conclut d'un ton profond, convaincu. « C'est un grand homme, un très grand homme qui désire la tranquillité, mais qui croit seulement aux menaces et aux moyens violents pour l'obtenir. En somme, messieurs, un grand barbare. Qui veut la fin veut les moyens, reprit M. de Musadieu. Je vous accorde volontiers qu'il adore la paix, si vous me concédez qu'il a toujours envie de faire la guerre pour l'obtenir. C'est là d'ailleurs une vérité indiscutable et phénoménale. On ne fait la guerre en ce monde que pour avoir la paix. Un domestique annonçait « Madame la duchesse de Mortemain ». Dans les deux battants de la porte ouverte, apparut une grande et forte femme qui entra avec autorité. Guilleroy, se précipitant, lui baisa les doigts et demanda « Comment allez-vous, duchesse ?» Les deux autres hommes la saluèrent avec une certaine familiarité distinguée, car la duchesse avait des façons d'être cordiales et brusques. Veuve du général duc de Mortemain, mère d'une fille unique, mariée au prince de Salia, fille du marquis de Farandal, de grande origine et royalement riche, elle recevait dans son hôtel de la rue de Varennes toutes les notoriétés du monde entier, qui se rencontraient et se complimentaient chez elle. Aucune altesse ne traversait Paris sans dîner à sa table, et aucun homme ne pouvait faire parler de lui sans qu'elle eût aussitôt le désir de le connaître. Il fallait qu'elle le vît, qu'elle le fît causer, qu'elle le jugeât. Et cela l'amusait beaucoup, agitait sa vie, alimentait cette flamme de curiosité hautaine et bienveillante qui brûlait en elle. Elle s'était à peine assise quand le même domestique cria « Monsieur le baron et madame la baronne de Corbel !» Ils étaient jeunes. Le baron, chauve et gros, la baronne, fluette, élégante, très brune. Ce couple avait une situation spéciale dans l'aristocratie française, due uniquement au choix scrupuleux de ses relations. De petite noblesse, sans valeur, sans esprit, mue dans tous ses actes par un amour immodéré de ce qui est sélect, comme il faut et distingué, il était parvenu, à force de hanter uniquement les maisons les plus princières, à force de montrer ses sentiments royalistes, pieux, corrects au suprême degré, à force de respecter tout ce qui doit être respecté, de mépriser tout ce qui doit être méprisé, de ne jamais se tromper sur un point des dogmes mondains, de ne jamais hésiter sur un détail d'étiquette, à passer aux yeux de beaucoup pour la fine fleur du high life. Son opinion formait une sorte de code du « comme il faut », et sa présence dans une maison constituait pour elle un vrai titre d'honorabilité. Les Corbel étaient parents du comte de Guilleroy. « Eh bien, » dit la duchesse étonnée, « et votre femme ?»« Un instant, un petit instant, » demanda le comte. « Il y a une surprise, elle va venir. » Quand madame de Guilleroy, mariée depuis un mois, avait fait son entrée dans le monde, elle fut présentée à la duchesse de Mortemain qui tout de suite l'aima, l'adopta, la patronna. Depuis 20 ans, cette amitié ne s'était point démentie. Et quand la duchesse disait ma petite. » On entendait encore dans sa voix l'émotion de cette toquade subite et persistante. C'est chez elle qu'avait eu lieu la rencontre du peintre et de la comtesse. Musadieu s'était approché. Il demanda « La duchesse a-t-elle été voir l'exposition des intempérants ?»« Non, qu'est-ce que c'est ?»« Un groupe d'artistes nouveaux, des impressionnistes à l'état d'ivresse. Il y en a deux très forts. » La grande dame murmura avec dédain « Je n'aime pas les plaisanteries de ces messieurs. » Autoritaire, brusque, n'admettant guère d'autre opinion que la sienne, fondant la sienne uniquement sur la conscience de sa situation sociale, considérant, sans bien s'en rendre compte, les artistes et les savants comme des mercenaires intelligents chargés par Dieu d'amuser les gens du monde ou de leur rendre des services, elle ne donnait d'autre base à ses jugements que le degré d'étonnement et de plaisir irraisonné que lui procurait la vue d'une chose, la lecture d'un livre ou le récit d'une découverte. Grande, forte, lourde, rouge, parlant haut, elle passait pour avoir grand air parce que rien ne la troublait, qu'elle osait tout dire et protégeait le monde entier. Les princes détrônés par ses réceptions en leur honneur, et même le Tout-Puissant par ses largesses au clergé et ses dons aux églises. Musadieu reprit. La duchesse, sait-elle qu'on croit avoir arrêté l'assassin de Marie Lambourg ? Son intérêt s'éveilla brusquement et elle répondit. Non, racontez-moi ça. Et il narra les détails. Haut, très maigre, portant un gilet blanc, de petits diamants comme boutons de chemise, il parlait sans geste, avec un air correct qui lui permettait de dire les choses très osées dont il avait la spécialité. Fort myope, il semblait, malgré son pince-nez, ne jamais voir personne. Et quand il s'asseyait, on eût dit que toute l'ossature de son corps se courbait suivant la forme du fauteuil. Son torse plié devenait tout petit, s'affaissait comme si la colonne vertébrale eût été en caoutchouc. Ses jambes, croisées l'une sur l'autre, semblaient deux rubans enroulés, et ses longs bras, retenus par ceux du siège, laissaient pendre des mains pâles, aux doigts interminables. Ses cheveux et sa moustache, teints artistement, avec des mèches blanches habilement oubliées, étaient un sujet de plaisanterie fréquent. Comme il expliquait à la duchesse que les bijoux de la fille publique assassinée avaient été donnés en cadeau par le meurtrier présumé à une autre créature de mœurs légères, la porte du grand salon s'ouvrit de nouveau, toute grande, et deux femmes en toilette de dentelle blanche, blondes, se ressemblant comme deux sœurs d'âge très différent, l'une un peu trop mûre, l'autre un peu trop jeune, l'une un peu trop forte, l'autre un peu trop mince, s'avancèrent en se tenant par la taille et en souriant. On cria, on applaudit.